Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ergun Toparslan, délégué général du Parti démocrate et progressiste. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors, dans son journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il n'allait pas s'associer à un front républicain contre le RN. Bruno Retailleau estime, lui, que le Rassemblement national appartient à l'arc républicain, ce qui, selon lui, n'est pas le cas de la France insoumise. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers une union des droites qui permettrait au RN de diriger la France ?
Je l'espère pas. En tout cas, je le combats. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le parti du général de Gaulle perd complètement son identité, avec notamment Jacques Chirac qui avait rappelé qu'il ne fallait surtout pas jamais négocier avec l'extrême droite, faire avec l'extrême droite. Aujourd'hui, on voit que les générations politiques issues de ce parti-là perdent complètement cette tradition-là et dans une course au sondage uniquement tétanisée par les derniers sondages qui sont sortis, ils ont perdu toute combativité, ils ont baissé les armes, ils sont aujourd'hui en train de réfléchir à comment ils arriveraient à sauver les meubles en cas de victoire du Rassemblement national à la présidentielle, alors que la question, ça devrait être comment on fait en sorte d'empêcher le Rassemblement national de gagner la prochaine élection présidentielle.
Et quelle est la part de responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce qui arrive à la droite aujourd'hui ? On a dit qu'il avait tué la gauche, qu'il a tué la droite. Est-ce que finalement, maintenant, l'alternative, ça n'est pas ou le RN ou LFI ?
On le voit actuellement, il y a la grande majorité des députés, les Républicains de l'Assemblée nationale qui soutiennent l'action du gouvernement de Sébastien Lecornu. Il y en a de nombreux qui sont à l'intérieur, en responsabilité dans le gouvernement. Il y a aussi une part de bataille interne dans la prise de position de Bruno Retailleau. Il y a les enjeux des municipales qui sont pas à oublier, qui sont assez importantes parce que aujourd'hui la force des Républicains se base beaucoup sur les élus locaux, c'est-à-dire sur le Sénat par voie de conséquence. Mais au-delà de ça, quand on connaît l'impact que ça peut avoir ce genre de prise de position, ils ont tout à fait conscience que cela peut représenter pour les électeurs traditionnels des Républicains qui ne se retrouveront pas, je l'espère, là-dedans. Et sur surtout, ça montre qu'ils n'ont plus de voix de réserve pour les prochaines élections. Et je pense que la stratégie qu'il a, c'est d'aller chercher certaines voix du Rassemblement national. Nicolas Sarkozy, en vrai, il avait déjà commencé en s'appropriant les thèses, les thèmes du Rassemblement national dès 2007, pour essayer de se les appliquer de manière maladroite, d'ailleurs, qui ont produit des effets pas très bons pour notre unité nationale. Maintenant, l'analyse du président de la République, c'était en ayant fait ce constat-là. D'une part, cette droite qui court derrière l'extrême droite qu'avait initié Nicolas Sarkozy. Et de l'autre côté, ces deux gauches irréconciliables. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire on va faire en sorte que les personnes issues de la droite et issues de la gauche puissent travailler ensemble. C'était un peu le début de l'aventure. Sauf que ça s'est transformé en ni de droite ni de gauche. Et nous, on pense qu'il faut que ce soit et de droite et de gauche. C'est un peu l'idée. C'est pour ça que nous, avec Démocrates et Progressistes, on souhaitait apporter notre pierre à l'édifice dans ce « en même temps » là, en faisant en sorte que les sociaux-démocrates, les républicains, puissent se retrouver dans cette façon de faire de la politique de compromis. Sauf que les faits sont là, les élections sont passées par là, les élections européennes, puis la dissolution, et on voit surtout que nos concitoyens ne font pas sortir de majorité nette pour gouverner.
Ergun Toparslan, on garde en mémoire le score du RN aux européennes, 31,47% des suffrages exprimés, un parti qui est arrivé en tête dans plus de 90% des communes de France, un score très important aussi aux dernières législatives. Est-ce que le RN est bien parti pour conquérir de nombreuses villes lors des municipales ? Il n'y aura pas seulement des prises symboliques ?
Alors, je pense qu'il va y avoir des victoires du Rassemblement national dans certaines villes. Après, le Rassemblement national du Nord ou de l'Est, de là où je viens, n'est pas le même que celui du Sud. Et dans le Sud, ils avaient déjà gagné des villes, des communes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de leurs députés qui sont candidats à des élections municipales pour, entre guillemets, concrétiser l'essai qu'ils avaient fait avec les élections législatives.
C'est le cas, par exemple, à Toulon.
À Toulon, Laure Lavalette, il y a plusieurs députés qui sont candidats. C'était d'ailleurs le principal risque au début de mon engagement politique, c'était pendant les élections régionales de 2015. On expliquait qu'il fallait faire très attention au Rassemblement national parce qu'à partir du moment où des partis d'extrême droite commencent à avoir des élus, ils commencent à avoir des collaborateurs d'élus, des groupes, etc. Et tout ça, c'est des machines à former des futurs candidats. Ils en ont grandement profité, c'est ce qui a fait leur mis en place les candidats dans les élections législatives. Aujourd'hui, il y a toute une armée de collaborateurs qui vont faire des conquêtes politiques et se présenter à toutes les élections. Ceci dit, par élection, l'électorat du RN réagit différemment. Aux élections européennes, il y a une grande poussée du Rassemblement national parce que les deux thèmes majeurs de l'élection, c'était l'identité et l'immigration. Et là-dessus, force est de constater qu'ils ont mobilisé fortement leur électorat et ils ont très largement contribué à faire en sorte que le Jordan Bardella soit très largement en tête. D'ailleurs, si on veut faire une introspection, nous, c'est complètement l'inverse. Les thèmes qu'on voulait amener aux élections européennes, on n'a pas réussi à le faire. C'est pour ça que la dissolution tout de suite le lendemain des européennes n'a pas produit les mêmes effets. Aux élections législatives, l'électorat a réagi complètement différemment. D'ailleurs, les abstentions nistes ont été votées au premier tour, puis d'ailleurs au second tour, ils ont fait une certaine forme de front républicain. Donc pour moi, il n'y a pas une fatalité à la victoire du Rassemblement national, ni dans les municipales, ni dans les prochaines échéances. Pour les municipales, il y a un autre enjeu, il y a l'histoire de l'ancrage local. Il faut malgré tout avoir été identifié, connu, et c'est surtout des listes. Et sur des listes, c'est là que ça devient un peu plus compliqué pour le Rassemblement national, parce qu'on va commencer à gratter la peinture, et dès que ça va commencer à craquer, il y a tout de suite les anciens démons qui vont ressortir, avec des profils très atypiques, vraiment d'extrême droite, et qui tiendront des propos qui vont pas très bien avec la nouvelle image du Rassemblement national. Et c'est en ça que je suis pas certain qu'ils puissent être endurants jusqu'à avoir une grande vague Rassemblement national lors des prochaines municipales.
Ergun Toparslan, pourquoi est-il si difficile pour la droite, la gauche et le centre que vous représentez de contrecarrer le RN ? Est-ce que c'est seulement parce que ce parti n'a pas encore été au pouvoir ou bien il y a une adhésion aussi à leur programme ?
Il y a une paresse intellectuelle majeure de la classe politique, y compris de ma famille politique, qui, pour contrer les arguments du RN, rentre dans leur thématique. Alors que c'est l'histoire nous montre que c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Il faut trianguler. Si on veut traiter les sujets sociaux, d'insécurité, problématiques de logement, problématiques de pouvoir d'achat, si on essaie de combattre le Rassemblement national sur ses terres à lui, avec l'aspect identitaire, évidemment, on le fera moins bien qu'eux, parce que, tout d'abord, pour eux, c'est plus facile parce qu'ils sont uniquement sur des émotions, alors que nous, on essaye d'avoir un certain raisonnement idéologique, un peu de pragmatisme pour essayer de convaincre l'électeur. Mais au-delà de ça, l'électeur, en tout cas nos concitoyens, les Français, ils peuvent être attirés parfois par certaines solutions simplistes que propose le Rassemblement national ou les partis d'extrême, mais malgré tout, c'est pas la grande majorité. Et c'est pour en soi, nous, il faut que la classe politique, les partis traditionnels se ressaisissent quand même un petit peu à un moment donné. On rentre dans la production idéologique, dans du combat projet contre projet. On parle aujourd'hui de remise en cause de la démocratie. C'est ce que fait le Rassemblement national. Il conteste les résultats des élections. Il conteste les décisions des tribunaux. Il conteste les scientifiques. Il conteste tout ça. Et si on ne prend pas conscience que derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui a une cote de popularité énorme, qui gère très bien leur image, il y a une vraie réflexion, une forte poussée populiste d'extrême droite, déjà on part dans un mauvais diagnostic. Et maintenant, nous, à ça, progressistes, républicains, démocrates, comment on réagit? Si on fait comme Bruno Retailleau à essayer de sauver les meubles dans son camp, on n'arrive pas à s'inculquer une culture du compromis, et ben c'est certain qu'on va aller face à des grandes difficultés. Après, c'est une question générationnelle, c'est la responsabilité de la génération. Il faut qu'on prenne conscience qu'on ne pourra plus faire de la politique comme les aînés qu'on a connus, à s'identifier, à s'accaparer des cantons, des régions, des postes, pour ensuite se dire bah, ici je suis sûr d'être élu, je me présente là, etc. Il y a une part de risque, une énorme part de travail à prendre en compte. En tout cas, moi, ce que j'espère, ce que je souhaite initier avec ma génération, ça sera ce travail-là pour combattre le RN, parce qu'il n'y a que le travail qui paye et que si on souhaite rester avec des arguments sérieux face à des émotions, il va falloir être très très costaud.
Vous êtes de la génération de Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes qui s'identifient à ce jeune leader qui ne voit pas forcément les implications de son programme ?
Malheureusement, c'est l'époque qui est celle-là, l'époque de l'immédiateté, l'époque du short, du réel, du très court, où on a une minute pour essayer de créer une émotion dans un public. Et aujourd'hui, c'est devenu, malheureusement, dans la classe politique, dans un électorat. Je pense qu'il faut l'accepter. Il faut accepter cela. Il faut accepter, reconnaître les forces de son adversaire. S'il le fait très bien, si ça réagit, c'est qu'il y a une raison. Sauf que pour autant, il faut que nous, on puisse adapter un discours pour essayer de les amener là-dedans. Jeunes, ils sont pas si débiles que ça. Ils savent très bien ce qui se joue derrière et on le voit très bien dès lors que on sort des thèmes identitaires, identitaire, immigration, ça sèche très très vite. On l'a vu sur le budget, les cadres RN ont vraiment beaucoup de mal. Et d'ailleurs, dès qu'on rentre dans les sujets économiques, on sait même pas ce que pense le RN. Aujourd'hui, Jordan Bardella, il se la joue un peu plus libéral, jeune, moderne, dynamique. Et Marine Le Pen, elle, c'est très, très de gauche, hein, les positions économiques. Donc, tout notre travail, nous, c'est de démasquer ça. Et par contre, effectivement, c'est pas facile. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais il faut aussi que nous, on comprenne les attendus de jeunes générations.
Mais certains électeurs se disent que le RN n'a jamais gouverné. Et finalement, si Jordan Bardella ou Marine Le Pen arrivent au pouvoir, ce sera une alternance comme une autre, comme on a eu Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Pour vous, ça ne serait pas une alternance comme une autre ?
Non, parce qu'il y a l'histoire et moi j'aime beaucoup l'histoire, je souhaite que nos jeunes se la rappellent aussi. Effectivement, ils ont gouverné localement, ils n'ont pas gagné d'élection présidentielle, on souhaite que ce ne soit pas le cas, mais l'histoire nous a montré que l'identité politique, la culture politique dont venaient tous ces gens-là, dont émanaient tous ces gens-là, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais a déjà gouverné et quand il a gouverné, ça n'a pas été très glorieux. On n'est pas dupes, mais par contre, il faut qu'on arrive à convaincre la grande majorité, c'est ça le jeu démocratique, qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans ce piège-là. Le vrai danger derrière tout ça, c'est que très vite, dans pas longtemps, vous verrez qu'ils vont remettre en cause aussi la démocratie. Et on le voit très bien quand les amis des populistes et d'extrême droite, de Jordan Bardella ou autres, gagnent des élections. C'est pas très loin chez nous. C'est en Hongrie, aux États-Unis, c'est quoi ? C'est dès qu'il la perd, marche sur le Capitole. Hongrie, c'est les droits des minorités qui sont remis en cause. Le pluralisme politique qui est remis en cause. Ce qui veut dire que la liberté d'expression, la démocratie est remise en cause. Donc il ne faut pas être très dupe, il faut juste voir à côté de qui s'assoient tous ces gens-là, Jordan Bardella, au Parlement européen. Et on verra que tous ces gens-là ont déjà gouvernent en Italie, en Hongrie, et ils espèrent mettre en œuvre la même politique chez nous.
Ergun Toparslan, la France a commémoré les 120 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État, la loi de 1905. Pendant des années, les Français ont semblé s'entendre sur la définition de la laïcité. Aujourd'hui, on a plusieurs visions qui s'opposent, une vision ouverte et une autre qui veut absolument neutraliser les signes religieux. Quelle est votre définition de la laïcité ?
Bon, ma définition, c'est la définition de la loi, c'est la neutralité entière de l'État et la séparation de l'Église et de l'État. Encore une fois, l'histoire nous a montré comment cette loi a émergé. C'est le fruit d'un compromis. Il y avait deux options, il y avait deux lois qui étaient sur la table et c'est celle-ci qui a été votée. Elle permettait à l'époque de faire un distinguo complet. Ça a été très dur parce que la France a pris beaucoup de distance avec le Vatican. Ça a été compliqué y compris. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas très longtemps dans un débat. C'était absolument pas populaire. L'opinion publique ne suivait absolument pas cela. C'est d'ailleurs toutes les grandes idées dans notre pays étaient minoritaires. Il ne faut pas se le cacher, il faut l'assumer. La République, c'était pareil. La loi de 1905, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous, ce n'étaient pas des idées majoritaires. Mais comme le disait Victor Hugo, quand la France rencontre une idée, elles font ensemble le tour du monde. On voit que très vite, il y a des pays qui s'en ont inspiré, hein, qui l'ont appliqué de façon plus ou moins bonne, on va pas refaire l'histoire, mais en Turquie, en Tunisie, il y a eu des applications de cette laïcité-là. Mais effectivement, je pense qu'on manque d'explications là-dessus pour que les gens puissent bien la comprendre, l'intégrer. Elle peut être interprétée à la fois comme un sujet discriminant pour une partie de la population et de l'autre côté, comme un sujet qui permet plus de liberté. Tout l'enjeu, c'est pour moi de revenir à la définition, à l'essence même, ce qui nous permettait de vivre, de faire en sorte que toutes les religions puissent vivre et cohabiter ensemble. C'est vrai qu'en 1905, il n'y avait pas de musulmans en France, mais dans la philosophie des personnes qui ont écrit cette loi, elle avait une vocation universelle. Et quand on dit universelle, évidemment, la religion musulmane, elle vient pas de la Lune, hein, elle est sur Terre. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle puisse englober aussi tous nos compatriotes de confession musulmane et je pense qu'elle a vocation, elle peut le faire. Maintenant, il faut aussi encore une fois sortir de la paresse que politiquement on l'instrumentalise pas et qu'on fasse en sorte qu'elle englobe tous nos concitoyens.
Dernière question, vous qui êtes plutôt au centre-gauche, qui avez soutenu Emmanuel Macron, qui souhaitez-vous voir succéder au président de la République et sur quel projet ?
La question est très bien. Je vais commencer par le projet. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le projet. C'est pour ça que, effectivement, vous l'avez constaté, c'est pas les candidats qui manquent chez nous, mais j'aimerais bien que ce soit les projets qui soient un peu mis en avant. Je suis également membre du bureau exécutif de Renaissance et effectivement, on avance très régulièrement sur beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. D'ailleurs, avec la loi, les 120 ans de la loi de 1905, on a fait également des propositions. Donc, tout d'abord, en termes de méthode, parce que la social-démocratie, c'est avant tout une méthode. J'aime bien qu'on parle du fond avant de la représentation. Et ensuite, j'ai aucun doute avec les personnes, les personnalités qui ont des responsabilités dans les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, on trouvera la bonne personne pour incarner ces idées, ces propositions-là. Maintenant, le tout est de savoir c'est comment. Est-ce qu'on fait par un vote interne ? Est-ce qu'on fait une primaire ? Aujourd'hui, ce qui ressort le plus, c'est une primaire qui permettrait de départager ça. Mais j'ai eu aussi de l'expérience au sein du Parti Socialiste, comme quoi les bonnes idées, les bonnes intentions d'une primaire peuvent être très contre-productives ensuite. Donc dans tout ça, ce qui est important, c'est évidemment le lien avec les Français, le lien avec nos territoires, avec nos concitoyens, et faire en sorte que de mettre en avant la personnalité qui sera le plus à même d'empêcher Jordan Bardella ou Marine Le Pen de gagner au second tour. C'est un vrai enjeu, il ne faut pas qu'on se trompe, on n'a pas le luxe de se tromper, donc je vais être très précautionneux sur ce sujet-là.
Merci Ergun Toparslan, je rappelle que vous êtes délégué général du Parti démocrate et progressiste. Merci.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.